PolySécu, épisode technique, je sais combien de Gabriel. Ça va bien?
Ben oui, ça va bien, toi aussi.
Ça va bien aussi. Aujourd'hui, on va faire la suite du dernier épisode, c'est-à-dire une deuxième partie sur Intio. Là, la dernière fois, on avait parlé plus du BIOD, c'est le fait de gérer l'appareil plus que gérer l'appareil. Là, on va aller du côté plus gérer l'appareil que de gérer l'application. Quoi qu'on peut gérer l'application avec l'appareil aussi, mais le volet de gestion d'appareil est beaucoup plus orienté vers ce qu'on a en entreprise, justement pour déployer des configurations, des bonnes pratiques et ainsi de suite. Fait que je vais te laisser partir avec ça. Et on aura un podcast plus vidéo parce que c'est des démonstrations. Fait que si vous avez juste la version audio, peut-être que vous avez manqué quelques petits éléments. Vous pouvez aller voir sur YouTube aussi.
On va essayer de tout décrire. Mais oui, en effet, la dernière fois, partie 1 de Intune, excusez-moi, on a discuté, oui, du volet plus BYOD, puis juste pour revenir très, très rapidement, la recommandation globale là, pour le BYOD qu'on a émise finalement, là, c'était qu'on recommande de déployer tout ce qui est stratégie de protection des applications. Pour ceux qui voient mon écran, encore une fois, c'est juste d'aller dans la section Apps, puis t'as App Protection Policies. Désolé pour ceux qui ont l'interface en français. Moi, j'en suis personnellement allergique. C'est ça, c'est quelque chose de très simple à déployer qui vient vraiment mettre une bulle de protection sur les applications qui sont utilisées pour accéder à des informations corporatives à partir de n'importe quel appareil mobile. Et je le répète, parce que ici, on a accès à Windows Information Protection, mais je vous rappelle de complètement ignorer cette fonctionnalité-là, qui ne fonctionne pas très bien. Donc aujourd'hui, c'est ça, on veut plus se pencher sur le volet corporatif, puis comme Nicolas Loïc vient de le mentionner, le côté MAM, donc les stratégies de protection des applications, ça continue à être pertinent dans ce contexte-là, dans le sens où ce n'est pas parce qu'un appareil mobile corporatif est géré, qu'on lui pousse des bonnes configurations, puis qu'on valide sa conformité et tout ça, qu'un utilisateur va quand même pas oublier son téléphone déverrouillé sur une table dans un café. Donc, le volet MAM reste pertinent pour ce type de scénario de risque-là, pour venir protéger l'application, pour faire en sorte qu'on demande quand même à l'utilisateur de s'authentifier pour accéder aux données corporatives à partir de l'appareil mobile. Mais il y a quand même plusieurs éléments ou plusieurs pans de mur dans Intune qu'on peut aller mettre en place pour aller assurer un niveau de sécurité adéquat ou raisonnable pour les appareils corporatifs. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, juste pour vous donner mon petit outline, on va regarder particulièrement ce qui est relatif au profil de configuration, aux stratégies de conformité, puis il y a aussi le côté sécurité des points de terminaison qu'on peut aller regarder et gérer dans Intune directement. Donc, si on commence avec les profils de configuration. Au niveau des profils de configuration, ce que ça implique un profil de configuration une fois que vos appareils corporatifs sont déployés, sont inscrits sont enrôlés là, dans Intune, on est en mesure d'aller déployer des profils de configuration. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller pousser des configurations sur l'appareil. Vous pouvez le voir un petit peu comme un remplacement ou une amélioration, ça dépend de votre perspective, de ce qui était géré via GPO autrefois dans un environnement traditionnel on-prem. Ça ne veut pas dire que ça va aller entrer en conflit avec les GPO, il y a possibilité d'utiliser les deux en parallèle en mode co-manage, par exemple, si vous utilisez SSCM ou des choses comme ça. Mais bref, l'idée ici, c'est que tant pour les appareils mobiles que pour les postes de travail, on va pouvoir aller pousser des configurations à partir de profils de configuration. Ce qui va nous intéresser particulièrement d'un point de vue sécurité, pour vous donner un exemple avec iOS, par exemple, on va aller sélectionner le type de profil de configuration qu'on souhaite déployer. Et il y a deux façons d'aller déployer des profils de configuration. On peut aller carrément consulter le catalogue de paramètres, qui contient énormément de paramètres, évidemment. L'approche la plus efficace, entre guillemets, c'est d'utiliser les templates, les gabarits qui sont offerts par Microsoft pour aller juste sélectionner les types de d'éléments de configuration qui nous intéressent. Dans ce cas-ci, ce qui va particulièrement nous intéresser d'un point de vue sécurité habituellement, c'est principalement ce qui se retrouve dans Device Restrictions. Donc, on a un gabarit qui s'appelle Device Restrictions pour toutes les plateformes, typiquement. Là. Donc, là, je suis dans iOS, mais si on regarde Windows 10 et plus au niveau des templates, il y a aussi Device Restrictions qui est présent ici. Donc, du moment où on a sélectionné notre gabarit, donc ici, on parle de Device Restrictions, on a accès aux différents paramètres de configuration. Donc, ici, dans le cas d'iOS, on a tout ça ici qu'on peut éplucher. Et, bon, aujourd'hui, évidemment, l'objectif, là, c'est pas de rentrer dans chacun des paramètres qu'on peut aller configurer parce qu'on serait encore en train d'en discuter à la fin de la journée. Mais on a accès à tout ce qui est relatif à, notamment, les mots de passe. Donc, exiger un mot de passe pour déverrouiller un appareil iOS dans ce cas-ci. Et un paquet d'éléments de configuration. Là, on peut aller bloquer le App Store ou faire en sorte qu'un appareil, qu'un utilisateur puisse pas utiliser Siri à partir de son appareil, ce genre de choses-là. Donc, en gros, ça va nous permettre d'aller vraiment avoir le comportement qu'on souhaite sur l'appareil. Par exemple, bon, un point qu'on veut souvent aller mettre en place, c'est de forcer le chiffrement sur l'appareil ou de bloquer la synchronisation dans iCloud pour le cas de iOS, ce genre de choses-là. Puis une fois qu'on a été sélectionné les différents éléments de configuration qu'on veut avoir, bien évidemment, on va aller sélectionner les utilisateurs à qui on veut déployer ce profil de configuration-là pour que ça s'applique en fonction de nos besoins. Donc, on peut aller mettre en exception des utilisateurs, par exemple, qui auraient besoin de certaines fonctionnalités et déployer potentiellement un autre profil de configuration pour eux. On peut le gérer de différentes façons comme ça. Donc, le profil de configuration, excusez-moi, c'est vraiment à partir de là qu'on va pouvoir rehausser ou aller, dans le fond, forcer notre baseline de sécurité sur tous les appareils corporatifs. Si on regarde rapidement au niveau de Windows 10, par exemple, on peut regarder au niveau Device Restrictions aussi. Encore une fois, il y a d'autres gabarits qui vont pouvoir être intéressants, notamment si on souhaite déployer Defender ou gérer Defender for Endpoint ou des éléments de cette nature-là à travers des profils de configuration. Je dis si on souhaite parce qu'il y a possibilité de le faire aussi à travers Endpoint Security. Il y a des éléments qui sont un petit peu redondants entre les deux. Mais vous voyez que, encore une fois, on a accès à un paquet de paramètres qui vont nous permettre de rehausser le niveau de sécurité sur les appareils Windows 10. Donc, la gestion de l'antivirus peut se faire aussi à travers ce gabarit-là, la gestion des mots de passe et tout ça. Donc, ça vient vraiment faciliter finalement la gestion des configurations de vos postes utilisateurs. D'autant plus que c'est un service cloud, évidemment. Donc, contrairement à lorsqu'on déploie les configurations à travers des GPO, on a besoin d'avoir le poste qui est en mesure de contacter notre domaine local. Bien là, dans ce cas-ci, dans un mode Azure AD hybride, où si l'appareil est directement connecté à au niveau d'Azure AD, ben il y a moyen de faire en sorte que les configurations soient poussées vers vos postes utilisateurs, peu importe le réseau sur lequel ils sont connectés. Même qu'avec ce qui s'appelle Intune Autopilot, mais à ce moment-là, il y a moyen de faire en sorte que l'utilisateur reçoive directement son poste à la maison et du moment où il va s'authentifier avec son identité corporative, va se faire envoyer toutes les configurations pour son appareil directement, sans nécessairement avoir à passer même dans les bureaux de votre organisation, par exemple. Donc, quand même.
C'est un avantage énorme, surtout dans un environnement de télétravail ou en tout cas de travail hybride, tout dépendant des endroits où c'est maintenant rendu la norme plus que l'exception. Reposer sur les anciennes structures de GPO, entre autres, ou SCCM, sont beaucoup plus ardues et exigent beaucoup plus d'efforts que d'aller avec une structure comme Mentio nous permet justement de, franchement, je sais pas, ça allait depuis le temps, mais il y avait quand même certains manques dans Intune, mais j'imagine qu'avec le temps, ces manques-là sont de plus en plus couverts. Donc, à ce moment-là, on est quasi, à mon sens, parité et tranquillement, puis ça facilite énormément la vie de ça, ne plus avoir à se brancher en VPN à l'entreprise, ne plus avoir besoin de vivre dans le réseau interne, justement, d'être vraiment nomade, là.
Oui, exactement. Puis en effet, Intune, c'est bien que tu le mentionnes, là, il y a énormément de travail qui est mis du côté de Microsoft sur ce service-là. Évidemment, on le voit là, que la tangente de Microsoft, c'est de vouloir pousser le plus possible ses services cloud. Avec Intune notamment, on a vu que Microsoft a tenté de faire en sorte que ce soit que ce soit forcé quasiment, là, dans le sens qu'ils ont voulu faire en sorte que SCCM ne soit plus supporté, puis finalement, ils ont dû faire marche arrière, puis mettre en place le mode co-géré. Mais c'est ça, l'amour est mis sur ce service-là plus que sur autre chose, évidemment, qu'ils veulent pousser ça le plus possible. T'sais, notamment côté nouveauté, là, pour ceux qui connaissent déjà Intune, vous voyez ici, au niveau des plateformes, à gauche, Chrome OS et Linux viennent de faire leur apparition. Je pense que ça fait même pas un mois là, dans Intune. Là, on était au niveau de profil de configuration, mais ils ne permettent pas encore pour tout ce qui est Chrome OS et Linux. Mais ils permettent de mettre en place des stratégies de conformité pour aller valider l'état de l'appareil. Quelle transition vers le prochain point, stratégie de conformité? Ou compliance policies, comme vous pouvez le voir ici. Les stratégies de conformité, c'est quoi? Ben en fait, c'est comme je viens de le mentionner, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place qui ne va pas aller pousser des configurations sur un appareil. Ça va simplement aller regarder l'appareil qui est enregistré dans votre environnement Intune pour valider certains éléments de configuration que vous pouvez paramétrer dans votre stratégie de conformité. Et à ce moment-là, en fonction de ce qui est validé, s'il y a des éléments qui ne respectent pas votre stratégie de conformité, vous pouvez aller décider qu'est-ce qui va arriver avec cet appareil-là. Donc, on peut simplement, par exemple, faire en sorte que l'appareil soit identifié comme étant non conforme. Et puis, ça s'arrête là, quoiqu'il n'y a pas énormément de valeur à faire ça. Mais éventuellement, on va pouvoir, par exemple, aller intégrer ça à une règle d'accès conditionnel pour faire en sorte que tout ce qui provient d'un appareil, toute tentative d'authentification à vos services M365, par exemple, en provenance d'un appareil non conforme, soit bloqué. Encore une fois, l'intégration entre les services Microsoft offre quelque chose de très intéressant ici, notamment aussi avec Defender for Endpoint. Donc, justement, je vais aller vous montrer quel genre de choses on peut faire avec une stratégie de conformité. Si je crée une stratégie de conformité pour Windows 10 ici, par exemple. Il y a moyen d'aller se faire des scripts personnalisés pour valider des éléments de conformité. Mais typiquement, les éléments qui sont mis à disposition ici sont suffisants. Donc, on peut aller valider que l'appareil a bel et bien BitLocker de mis en place, par exemple, que Secure Boot est déployé. On peut aller valider un paquet d'éléments là, comme la version d'OS minimale et tout ça. Puis je rappelle ici que on est vraiment dans un mode d'appareil corporatif, dans le sens que ça ici, ça ne va pas aller valider les éléments de poste personnel qui ne sont pas géré en mode MDM. au niveau des mots de passe et tout ça, l'encryption, les firewalls, donc c'est ça. On peut aller regarder beaucoup d'éléments, puis pour en revenir à l'intégration que je mentionnais au niveau de Defender for Endpoint, il y a un paramètre à aller déployer dans Defender for Endpoint pour activer l'intégration dans security.microsoft.com. Allez-vous le montrer en même temps, tant qu'à faire. Dans security.microsoft.com, au niveau des paramètres d'administration, pas bien long, c'est en train de loader pour ceux qui nous écoutent. Donc, complètement en bas, on a les paramètres et on peut aller dans M365 Defender. Ah, c'est ça, OK. Pour une raison que j'ignore, mes accès n'ont pas l'air à s'être mis à jour. Des fois, c'est quelque chose qui peut arriver, là. Mais c'est pas grave. Probablement que si je me déconnectais et que je me reconnectais, ça fonctionnerait parce que j'ai activé via PIM mes droits global administrateur tout à l'heure. Mais bref, c'est pas grave. Ici, il y a dans les paramètres, normalement, là, quand on a les accès d'activer convenablement puis que Microsoft est gentil, on a accès à ce qui est au volet endpoint ou point de terminaison en français. Puis là-dedans, il y a un paramètre dans les fonctionnalités avancées, que ça s'appelle, qui nous permet d'aller activer l'intégration avec Intune. Et ce que ça va nous permettre ici dans la stratégie de conformité, c'est qu'on peut aller indiquer à notre stratégie de conformité qu'on souhaite que le niveau de risque de notre appareil soit maximum à un certain niveau. Donc, on pourrait dire par exemple que require the device to be at or under the machine risk score at low. Ça, c'est assez violent parce que Defender for Endpoint va aller calculer le niveau de risque de vos appareils en fonction de plusieurs facteurs, mais notamment les vulnérabilités qui sont détectées sur l'appareil, tant d'un point de vue Windows que pour les outils qui détectent sur l'appareil, là. Donc, si vous avez une version non patchée de Chrome sur votre appareil, ça va arriver très vite là, que vos appareils tombent à un niveau de risque bas. C'est bien que ça nous force à travailler nos pratiques de mise à jour et tout ça, mais si on vient qu'à bloquer l'accès au service Microsoft 365 en fonction du risque d'un appareil à l'eau, ça peut devenir un peu intense. Donc souvent, ce qu'on va voir, c'est medium ou high, par exemple ici, et on va aller déployer une stratégie de conformité en fonction de tout ça. Et là, ici, ensuite de ça, on peut aller indiquer quelle est l'action qu'on veut prendre s'il y a non-conformité sur l'appareil. Donc, comme je l'ai dit tantôt aussi, l'action par défaut que Intune nous permet de faire, c'est simplement d'aller identifier l'appareil comme étant non-conforme. On peut aller dire à quel moment on veut qu'il fasse, mais évidemment, on veut que ce soit fait immédiatement dès que c'est détecté. Puis, on peut aller faire deux autres actions disponibles ici, soit d'envoyer un courriel à l'utilisateur pour l'en informer ou ajouter l'appareil à une liste de retrait. Donc souvent, c'est pas mal juste ça qu'on va recommander. On veut pas nécessairement que l'utilisateur soit avisé parce que ça peut générer de la confusion ou... Mais bref, ça dépend de votre organisation puis de la maturité de vos utilisateurs et tout ça, mais souvent, c'est juste simplement de le marquer comme étant non conforme qu'on va aller déployer. Encore une fois, on sélectionne à qui on veut déployer tout ça et ça va pouvoir être créé sans problème. Pour en revenir aux règles d'accès conditionnel, je crois que je vous l'avais montré auparavant dans la session qu'on avait fait sur les règles d'accès conditionnel, mais je vais vous... remontrer rapidement, étant donné que ça prend 2 secondes à faire. Là, j'espère que mes accès vont être fonctionnels dans ce portail-là. Donc, au niveau de nos règles d'accès conditionnel, c'est simplement d'aller se créer une nouvelle règle d'accès conditionnel. Évidemment, on va l'appliquer aux utilisateurs qu'on souhaite mettre là-dedans, mais typiquement, on va vouloir mettre tout le monde. Et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre en exception pour cette règle-là les utilisateurs invités, parce que ça arrive souvent qu'on ne va pas donner d'appareils corporatifs aux invités. Ça dépend de votre contexte, encore une fois. Je sais qu'il y a des organisations qui envoient des laptops à tout le monde, mais souvent, on va aller les mettre en exception si c'est pas votre cas. Pour toutes les applications cloud, typiquement, puis là, au niveau de nos conditions, on n'a pas nécessairement de conditions à mettre ici. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le volet ici, « Require device to be marked as compliant ». Donc, dans ce cas-ci, par exemple, pour tous mes utilisateurs, sauf mes utilisateurs invités et externes, pour toute application cloud, peu importe le type d'appareil, peu importe la façon que j'essaie d'y accéder, soit via navigateur ou client, application cliente, on demanderait un appareil conforme. Donc, dans le cas présent, je viendrais bloquer carrément tout ce qui est BYOD et exiger un appareil corporatif, non seulement corporatif, mais qui respecte mes stratégies de conformité pour être en mesure d'accéder à toutes les applications cloud. Donc, au niveau de la conformité des appareils, ça ressemble à ça. Et ensuite de ça, il y a le volet Endpoint Security. Évidemment, quand on parle de sécurité, c'est un volet qui va nous intéresser. Ça ici, c'est particulièrement pour tout ce qui est appareil Windows 10 et plus, où on va pouvoir aller gérer, tu sais, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a certains éléments en redondance avec les profils de configuration, mais ici, ça vient être un point central où on peut gérer les différents services et les différentes fonctionnalités de sécurité. Donc, typiquement, cette section-ci, on va vouloir l'utiliser pour aller gérer tout ce qui est l'antivirus Defender. Au niveau de Disk Encryption, on va pouvoir aller déployer BitLocker puis gérer BitLocker. C'est la façon qui est recommandée de le faire. Là, je fais la petite parenthèse ici parce que je sais que c'est possible de le déployer en mode GPO, mais justement, si vous êtes dans le contexte où vous utilisez encore des GPO, mais que vos appareils sont disponibles et enregistrés au niveau de Intune, BitLocker, on recommande de le déployer via Intune parce qu'il y a plusieurs avantages de le faire de cette façon-là. L'activation du service est plus simple, là, d'abord, à partir de Intune, parce que via GPO, l'activation de BitLocker, on doit aller exécuter des scripts sur les appareils pour l'activation du service. Mais il y a aussi le fait que via Intune, les clés de recouvrement sont prises en backup avant que le chiffrement de l'appareil soit fait, tandis que via GPO, c'est fait en même temps. Donc, c'est déjà arrivé dans le passé qu'on ait des problématiques dans un déploiement via GPO dans un contexte où une panne de courant ou un appareil qui manque de batterie ou peu importe. Si le chiffrement se fait en même temps que le backup des clés de recouvrement, qu'il y a une corruption dans tout ça parce qu'il y a une panne de courant, mais là, on vient de perdre le disque dur. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver un peu plus fréquemment. On s'entend, là, c'est assez rare quand même, là, mais via Intune, on mitige ce risque-là. Bon, évidemment, il y a la gestion du Windows Firewall qu'on peut faire à partir d'ici. L'EDR avec Defender for Endpoint se gère à partir de là pour l'inscription des appareils, le déploiement des fonctionnalités. Quelque chose qui peut être intéressant à souligner au niveau de Attack Surface Reduction, qui est une fonctionnalité avancée de Defender for Endpoint. Encore une fois, depuis peut-être un mois, je vous dirais, il y a une nouvelle fonctionnalité à ce niveau-là qui permet de faire en sorte que on vienne mettre en exception les règles ASR. Je sais que je sors un petit peu du contexte Intune, mais je suis pas dans le bon. Je vais rentrer dans une qui existe déjà au niveau de Attack Surface Reduction. Puis j'ai tenté de voir au niveau GPU si c'était disponible. Je n'ai pas été en mesure d'avoir l'information. Mais bref, pour votre information, si vous utilisez des Attack Surface Reduction Rules dans votre contexte, il y a moyen maintenant d'aller mettre des exclusions directement au niveau des Attack Surface Reduction Rules, ce qui n'était pas le cas avant.
Mais c'est très pertinent, surtout pour ceux qui voient la nature des règles qui sont là peuvent être très intrusives dans certains fonctionnements qui ont parfois pourraient être considérés comme étant normal dans certaines organisations. Mais à la fois très intéressant de le voir, ces éléments-là, vraiment qu'on puisse constater à quel point ça devient efficace pour réduire la surface d'attaque. Là, j'aime bien qu'il l'ait nommé de cette façon-là, mais c'est toutes des choses qu'on retrouvait historiquement dans l'EDR plus proprement dit, ou qu'on analysait à travers l'EDR, mais sans nécessairement avoir des règles aussi claires que ça.
Ouais, exactement. Puis je pense que je vais l'avoir ici, là. Bon, c'est ça. Ça ici, là, ce ASR only per rule exclusion n'était pas disponible avant. Et ce que ça va faire en sorte, c'est que, pour vous donner un exemple concret, là, avant, si par exemple, vous aviez un fichier Excel, par exemple, avec des macros quelconques qui étaient bloqués en ayant bloc Win32 API calls from Office macros, mais que c'est un fichier que vous avez besoin, ben ce qu'il fallait que vous fassiez, c'était que dans le fond le Excel soit mis en exception de toutes les règles ASR parce qu'il n'y avait pas moyen de faire des exclusions par règle, il fallait juste faire une exclusion globale. Donc c'était problématique parce que ça venait faire en sorte que ce soit sorti carrément puis qu'il n'y ait plus rien au niveau des règles ASR qui soit validé. Maintenant, depuis peu, on peut simplement aller dire pour l'exemple que je viens de vous donner que on continue à bloquer ici, mais que pour cette règle ASR-là, on vient de mettre l'exclusion spécifiquement pour celle-là, puis le reste des règles vont continuer à être validées pour Excel. Bref. Donc, ça fait pas mal le tour pour Attack Surface Reduction, mais c'est ça. Typiquement, on va, je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il y a moyen là, d'aller déployer certains éléments ici via des politiques ou des profils de configuration. On recommande habituellement de le faire ici. Bon, c'est pas majeur, là, mais c'est juste pour dire que si on le fait tout à partir de là, on a un point central pour aller vraiment gérer toutes nos configurations relatives à la sécurité de nos postes utilisateurs. Donc, ça fait pas mal le tour des différentes fonctionnalités de sécurité qu'on recommande, les différents volets dans Intune qu'on recommande d'aller déployer.
Oui.
Encore une fois, on a fait un tour assez à haut niveau.
Ouais, ben comme tu mentionnais, si on descend dans chacune des configurations, on en a pour des heures et des heures à passer à travers tout ce qu'il y en a. Puis d'ailleurs, c'est pour ça la raison que c'est mieux d'utiliser un template, un gabarit fourni par Microsoft, entre autres, qui va accélérer justement le déploiement des règles en conséquence, puis justement de re-réfléchir. Puis si il y a une réflexion, puis de profiter de cette occasion-là, si l'organisation ne l'a pas déjà déployé, de réfléchir les règles, mais d'être en cohérence par rapport au télétravail, d'être en cohérence par rapport à la nouvelle réalité, au lieu de juste reprendre une réplique de ceux qui avaient des GPO ou avaient SSCM, d'une réplique directe, justement de réadapter par rapport à la nouvelle réalité. Puis les outils qui sont offerts aussi, parce qu'il y a une souplesse qui est différente, il y a un regard qui est différent dans Intune que ceux qui étaient habitués de travailler avec les GPO. Là. C'est un autre univers, on est dans un univers plus géré, plus comme les appareils mobiles l'ont beaucoup amené comme conception. Seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que le volet autre que Windows est un peu faible. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais on voit que Microsoft fait d'énormes efforts pour avancer en ce sens-là. C'est très bien, puis ils en font comme ils font dans plusieurs volets aussi, là, qui sont plus juste juste à favoriser Windows, mais s'assurer que les parcs de multi-fournisseurs puissent être gérés de façon cohérente puis de façon massive.
Oui, en effet, puis maintenant que tu en parles, tu sais, j'ai mentionné tantôt que du côté Chrome OS, Linux, il n'y a pas moyen de déployer de profil de configuration, mais Microsoft a quand même fait en sorte qu'on est en mesure d'aller créer des profils de configuration pour macOS. Donc, c'est déjà quand même un step intéressant là. À partir d'Intu, on est en mesure d'aller déployer des configurations pour tout ce qui est Mac.
Mais c'est vraiment intéressant, puis ça, c'est Charles, mais les choses se corrigent. C'est Sysmon est rendu disponible pour Linux. Fait que Microsoft fait d'énormes formes d'efforts, des efforts très importants justement pour amener tous ces outils qui sont très très utiles et très très commodes. Sysmon est un très bel exemple parce que son usage simplifie énormément le fait de collecter de la télémétrie sur les Linux au lieu d'utiliser les choses natives. Linux, fait qu'on même on a un avancé très important de ce côté-là. Fait que j'ai très hâte de voir d'autres avancées. Puis l'autre volet, je trouve un peu triste, mais on a parlé un peu de l'autre dans l'autre épisode précédent, c'est que les applications gérées ne sont que sur mobile, ne sont pas encore rendues sur les postes lourds. Là, on va dans l'ultime BIOD où dans le fond, on va pouvoir utiliser un portail de temps en temps personnel et utiliser les services M365 de façon gérée, protégée adéquatement selon les règles de l'organisation. Puis ça, j'ai très hâte que ça se mette en action. Comme tu parlais, Windows Information Protection est en train d'être abandonné, là, c'est ce que j'en comprends. Justement, parce qu'il y avait certaines faiblesses Exactement. Associées et complications qui rendraient ça difficile.
Oui, en effet, c'est ça. Puis bon, on va voir où est-ce que Microsoft est capable de pousser le volet Endpoint DLP aussi, parce que je sais que selon ce que j'ai vu, il essaie justement de un petit peu remplacer là, ce qu'il essayait de faire avec Windows Information Protection par tout ce qui est DLP for Endpoint, mais encore une fois, ça ne vient pas s'appliquer sur des appareils personnels, étant donné que l'appareil doit être inscrit de la même manière là, que pour Defender for Endpoint. Donc, pour l'instant, on reste un petit peu sur notre appétit de ce côté-là. En effet, là, ce serait bien de... C'est particulier d'avoir un certain comportement pour le BYOD d'un côté mobile, mais pour les postes qu'on ne soit pas en mesure encore de le faire. On va voir si Microsoft est capable de sortir un lapin de son chapeau éventuellement par rapport à ça.
Ça serait une sérieuse avancée, puis je pense que ça viendrait calmer les choses, puis surtout avec... Les règles un peu plus souples qui ont été mises en application à cause de l'urgence du confinement, puis pour plusieurs organisations sont encore en vigueur d'ailleurs. Donc, si on fait justement colmater ça, puis jusqu'à un certain point, les habitudes ont été prises après 3 ans de confinement, les habitudes sont beaucoup prises, fait que c'est difficile d'expliquer aux utilisateurs, non, mais maintenant tu peux plus faire ça parce que c'est pas bien, on n'aurait jamais dû, mais on était pressé. Là, de pouvoir justement avec justement un lapin comme ça, dire, OK, ben on te le permet, mais dorénavant, ton Outlook, ton Word va être scellé, mais tu vas pas l'utiliser sur un appareil personnel. Fait que, j'ai hâte de voir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère que ça va y arriver.
Ah, probablement, ben oui.
Donc, c'est ça. Ben, essentiellement, ça fait le tour de ce que tu voulais présenter.
Oui.
Ben, excellent. Mais je te remercie énormément. C'est encore très intéressant de voir ces outils-là, de pouvoir justement favoriser l'adoption pour que les gens bénéficient des éléments de sécurité associés et les facilités de gestion et tout ce qui s'ensuit. Personnellement, je fais peut-être une petite note. Je préfère l'utiliser en mode infrastructure as a code, c'est-à-dire que de coder ces éléments-là au lieu de faire à travers l'interface. Mais ça, l'interface, c'est bon pour la démonstration qu'on a faite là. La réalité, c'est si vous pouvez utiliser je sais pas si pas prendre GraphAPI maintenant, ou PowerShell historiquement, de coder vos règles comme ça, justement, pour que ça se réplique facilement, que vous puissiez les tester. Puis un élément que j'ai vu dans certaines organisations, puis j'espère que ça va se répandre, c'est d'avoir un tenant de graduation, c'est-à-dire que les règles sont testées dans un tenant inférieur, un palier inférieur, comme on fait dans du code. Puis si les règles marchent bien, automatiquement sont mises en application dans le tenant de production. Dans ce fond, on a comme une forme de contrôle qualité préalable aux modifications qui sont faites. Puis dans un code Intune, ben ça peut être assez violent. Si on fait une erreur dans ce cas-ci, ou comme les accès consoles aussi, si on fait une erreur, ça peut être assez dommageable pour l'organisation.
Oui, exactement. Ça, c'est un excellent point. Non seulement d'utiliser un palier d'acceptation comme ça, mais en effet, comme j'ai montré tout à l'heure, on peut aller déterminer à quel utilisateur on déploie les stratégies. Puis de, évidemment, là, d'y aller par un autre déploiement, sans y aller par all user en partant, là, c'est valable pour tout ce qui est Intune, pour aussi les règles d'accès conditionnel. Je pense que je l'avais pas dit l'autre fois. On recommande toujours d'y aller de cette façon-là.
Oui, c'est moins risqué. J'ai déjà vu des cas où ils ont fait une erreur de manipulation et ils ont éjecté toutes les personnes du tenant. Donc, ça a été assez brutal. Fait que faut être très, très prudent avec ces outils-là. Il y a eu un petit moment de panique, là. Une chance qu'il y avait des comptes Breaking Glass qui les ont sortis du pétrin, mais ça a créé un petit élan de panique dans l'organisation quand ça arrive.
C'est ça, ça facilite les déploiements, mais ça facilite les déploiements problématiques aussi si on scope mal.
C'est parfait, mais je te remercie énormément pour cet épisode. C'est très intéressant, mais justement, puis j'espère que l'adoption va être plus importante suite à ces informations-là. Merci.
Merci beaucoup.